Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons après la FAQ pour poursuivre nos randonnées ichtyologiques dans le monde merveilleux et étrange de la Sharksploitation. Et cette semaine encore, nous allons faire le grand écart entre le pire et le meilleur. Mais rappelons quand même rapidement le principe de l'émission. Nous avons tiré au sort deux films de requins dans la grande histoire du genre, et nous allons les explorer avec toute la rigueur pédagogique qui s'impose grâce à une grille des compétences squalo-cinématographiques ou squalographiques décrivant l'originalité, l'histoire, l'ambiance, les personnages, la réalisation et la qualité des requins pour déterminer à chaque fois s'ils sont non acquis, insuffisamment acquis, ce qui vaut un point, en cours d'acquisition, ce qui vaut 2 points, ou acquis, ce qui vaut 3 points... Et si nous rajoutons au final 2 points d'appréciation personnelle de ma part, eh bien nous arrivons à une note sur 20, qui permet de faire quand même un classement le plus objectif possible de la qualité de ces films. Le tout nous permettant de remplir nos 5 catégories, c'est-à-dire les incontournables, au-dessus de 16, les bons films, au-dessus de 12, les films routiniers au-dessus de 8, les films nuls au-dessus de 4, et en dessous de 4, les films à fuir. Et comme je vous l'ai dit, nous avons tiré 2 films diamétralement opposés, puisque nous allons analyser Cruel Jaws, alias Les Dents de la Mer 5, de William Snyder, alias Bruno Mattei, un film italien de 1995, et The Reef, d'Andrew Troughey, un film australien de 2010 qui se veut lui beaucoup plus sérieux. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
Talk rubbish, boy. This is not the place, nor the time.
Rome, 1995, dans les bureaux de chez Europe Communication Limited. Bon, bah faut qu'on fasse un film, hein. J'ai pensé qu'on pourrait bricoler un genre de Dents de la Mer, c'est pas bien compliqué, mais je préfère vous prévenir tout de suite, on n'a pas de budget, on n'a pas de scénar, et on n'a même pas d'équipe technique d'effets spéciaux pour bricoler un requin. Enter Bruno Mattei. Oh, qu'est-ce que j'entends, les amis? Pas de scénar? Pas de budget? Pas de problème. Je vous prends une chute de péloche qui traîne dans vos archives. Je vous recrute une équipe technique réduite pour un tournage commando en Floride, et je vous fabrique un Dents de la Mer 5 pour les tarots d'une Fiat 500. Quoi? Ouais, Dents de la Mer 5. C'est pas les Américains qui vont nous emmerder. Je viens de sortir un Terminator 2. Shocking Dark, les muscles de Cameron. Ah, Bruno Mattei. Je vous ai déjà parlé de tous ces réalisateurs producteurs roublards qui ont illuminé la galaxie du bis européen, et plus généralement du film de requin opportuniste. Mais en manière de petit génie de l'escroquerie filmique, de l'opportunisme mercantile décomplexé, personne, par peut-être Godfrey ou à Hong Kong, n'arrive à la cheville de Maestro Bruno Mattei. En presque 40 ans de carrière, des années 70 à sa mort en 2007, Bruno a été l'un des plus extraordinaires pourvoyeurs de péloches d'exploitation du cinéma italien. Il s'est frotté à tous les genres, selon les modes et les besoins du moment. Un film de zombies, j'ai. Un péplum, un western, je vous le fais. Un film érotique de prison des femmes, un film pour gosses avec un chien, un documentaire sur les perversions sexuelles, un sous-prédateur, un sous-rambo, un sous-Mad Max. Donnez-moi 15 jours, une petite équipe, un banc de montage, je vous prépare ça aux petits oignons. Mattei a tout fait, tout tourné, avec un manque de moyens qu'il dispute à peine au manque de scrupules. Poussant le plagiat non seulement à piquer les concepts vendeurs des autres, mais aussi à carrément reprendre les personnages, les dialogues, voire des scènes entières, au plan près, de films originaux.
On est loin d'être au bout de nos peines, Francis.
Billy, qu'est-ce qu'on sait sur les requins ?
Eh bien, on pourrait les comparer un peu à des locomotives avec des mâchoires pleines de dents acérées, qui passent la majeure partie de leur temps à nager. Et à manger et à faire des bébés. Et puis c'est tout.
Donc si on maintenait la régate, ça reviendrait à dire « servez-vous pendant que c'est chaud ».
Il n'y a que deux façons de s'en débarrasser. Les tuer ou les affamer.
Et au milieu des années 90, alors que le cinéma bis rital est en train d'agoniser et de disparaître, Mattei n'hésite pas carrément à essayer de faire passer son film pour le cinquième volet de la saga Dents de la Mer. Nous sommes donc dans une petite station balnéaire de Floride, où un requin-tigre sème la désolation en croquant tout ce qui bouge. Ce qui alerte Dag Sorensen, le propriétaire du parc nautique local, un vague sosie de Hulk Hogan surnommé le Viking, dont le fils est opportunément biologiste marin. Notre héros en plus est en butte à un promoteur local à coquiner avec la mafia, qui cherche à pousser Sorensen à la faillite pour racheter son parc à vil prix et le transformer en hôtel de luxe. Évidemment, alors que les cadavres se multiplient, le promoteur fait tout pour camoufler les choses et ne pas nuire à la saison touristique. Ajouter un shérif inquiet qui prend les choses trop à cœur, la romance entre le fils du Viking et la fille du promoteur, au grand dam de son frère, une espèce de petite frappe, qui avec sa petite bande de gros bras stupides exécute les basses œuvres du promoteur, et n'oublions pas la fille du Viking clouée dans un fauteuil roulant, amie des phoques et des dauphins, qui est un véritable tire-larme sur roue. Et on a donc un proto dans de la mer qui se la joue à l'aise. Alors, soyons honnêtes, Bruno c'est un monteur à la base. Mais là, c'est pousser l'art du découpage filmique jusque dans ses derniers retranchements. Donc il pille joyeusement les scènes des collègues, hein, dont la mort au large de Enzo Castellari, un des meilleurs sous-dents de la mer italien, qui s'était offert quand même un vrai requin mécanique, il reprend la scène de l'hélicoptère, les attaques sur la régate, Deep Blood de Joe D'Amato, dont il reprend pas les scènes sous-marines, et puis semble-t-il quelques extraits des Dents de la Mer, là je suis moins sûr, en ayant maté le film un peu plus en détail, il est pas impossible qu'il ait repiqué furtivement un ou deux plans, mais là je serais moins affirmatif. En tout cas, notre ami Bruno, sans trop de pitié, nous livre un film de requins sans requins.
Il y a assez de poison là-dedans pour tuer un éléphant.
D'après la carte, on est au bon endroit. Sois prudent, Matt. Le requin était entraîné par la marine et tu sais comment il
fait. Oui, t'as raison, mais j'étais dans la marine, moi aussi.
Ah, alors ça va.
Dieu que ce film est con. Mais Dieu que j'adore ce film. C'est bien simple, c'est lui qui me sert de générique pour le podcast. Oui, le requin-tigre est un maniaque. Alors, je vais pas vous bourrer le mou, hein, ce film est une catastrophe. Mais c'est tellement ridicule que ça en devient jouissif. Les acteurs sont tous mauvais comme des cochons, ils ont pas été recrutés pour leur talent, hein. Non, ils ont été recrutés pour leur plastique de jeunes sportifs dents blanches ou de blondines à tas gros seins. C'est bien simple, pour la plupart d'entre eux, aucun n'a fait carrière dans le cinéma et leur filmo commence et s'arrête avec Cruel Jaws. Mention spéciale quand même à Richard Dew, alias le Viking, qui est littéralement le sosie neurasthénique du catcheur Hulk Hogan. Métier qui va d'ailleurs exercer dans toutes les foires à la saucisse de Floride par la suite. Alors les quelques témoignages épars que j'ai pu lire sur le tournage de ce truc montrent que tout a été fait dans l'urgence pour le moins d'argent possible. Je suis prêt à parier que les deux tiers de l'équipe technique qui est créditée au générique est en fait purement fictive. Juste là pour gonfler le casting et ramasser au passage quelques aides ou subventions des organismes officiels italiens de promotion du cinéma. Même la musique créditée d'un certain Michael Monahan est un repompage éhonté de John Williams. Écoutez-moi ça. Que ce compositeur n'apparaît nulle part, que c'est sa seule bande originale créditée, je ne serais pas étonné outre mesure que ça soit Mattei lui-même qui ait bricolé sa musique à partir de bandes déjà existantes. Et si on parle de plagiat à Mattei, lui il vous répondra hommage, rien que par les dialogues. Écoutez-moi ça.
Il fait plus de 8 mètres de long !
Faudra un hélicoptère plus gros !
Ah, je me lasse pas de ces dialogues. Allez tiens, je vous en remets encore un petit coup avant de voir les qualités scolographiques du film.
Hey, Ronnie, t'as vu ça? Une super nana des nichons comme des melons.
Ah, c'est ça le genre de nana qui te branche, toi?
Et hein? Avoue que c'est excitant.
Ah, ouais.
You, Ronnie!
Tu vois ce que je vois?
Ouais. Ah, quel gâchis de l'avoir sorti avec ce foutu docteur Billy.
Hey, je sais pas, mais peut-être qu'on va se planter. On va essayer de se la faire. Oh. À mon avis, ça doit être un bon coup.
Salut, Bob.
Ah, salut, Gloria.
On dirait que ta petite sœur, elle en pince pour le fils du viking, hein.
Comment va Suzy? J'irai la voir après le spectacle ce soir.
Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ça ne marche pas très fort entre ton père et le mien. Je voudrais pas faire quelque chose qui...
Tu fais toujours ce que ton père te dit de faire?
Non.
Bon, alors à 8h, à l'aquarium. Et attendez-moi, je viens avec vous.
Attendez.
Qu'est-ce que tu veux?
Je suis le surveillant de cette plage. Il faut que je voie vos papiers.
Oh, dégage, dégage, dégage.
Allez, faisons notre petit bilan de Cruel Joes. Originalité. Non acquis. Non mais, hey, really, les Dents de la Mer 5. Histoire, insuffisamment acquis. À force de coller ensemble des plans d'autres films pour essayer de faire tenir celui-là, bah en fait, rien ne fait sens. D'autant que les meilleures scènes sont piquées directement à d'autres films. Personnages non acquis. Trois quarts des comédiens sont amateurs et surjouent la moindre scène comme si leur vie en dépendait. Ambiance, insuffisamment acquis. Après les 20 premières minutes d'exposition, le rythme n'est pas mauvais. Mais bon, c'est pas très passionnant pour autant. C'est plus la nullité de l'ensemble qui fait tenir le rythme que véritablement l'intérêt de l'histoire. Réalisation insuffisamment acquis. Alors s'il y a bien une chose qu'il faut reconnaître à Bruno, c'est son talent de monteur. Pour arriver à faire tenir debout un tel projet, c'est un tour de force. Et il faut bien reconnaître que dans certaines scènes, si on ne savait pas que c'est totalement repompé ailleurs, eh ben ça passerait presque. Presque. Tout est dans le presque. Qualité des requins, bah non acquis, hein, ils sont pas à toi ces requins. Rends-les, vilain garçon. Oh là 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 là, tu devrais avoir honte, Bruno. Enfin, si tu connaissais ce sentiment. Alors au final, ça nous ferait un total de 3 points. Cruel Joes n'est ni fait ni à faire, sauf qu'en le revoyant, je me suis marré comme jamais devant un vrai nanar à l'ancienne. Alors allez, cash, 1,5 point bonus. En tant que fan de nanar, en toute subjectivité, j'en ferai peut-être même sous peu la chronique sur Nanarland. Donc au final, 4,5, c'est nul. Mais alors avec une bière et des potes, vous allez vous marrer. Et pour ça, il te sera grandement pardonné, Bruno. Alors, voyons maintenant le second film, The Reef, qui se veut d'une tout autre qualité.
Depuis 35 ans, vous avez oublié qu'une simple baignade peut être mortelle. Australie, été 2010. 5 amis partent en croisière.
Amusez-vous bien!
Mais lorsqu'ils font naufrage,
cette épave va couler. Il y a une terre là-bas, et je crois que c'est notre seul espoir.
J'ai trop pêché dans ces eaux, je sais ce qui y traîne. Je préfère rester au sec.
Le rêve vire au cauchemar.
Il y a quelque chose par là.
On est complètement paumés en pleine mer.
Il y a quelque chose qui nous suit.
Et vous? De quoi êtes-vous capable?
Tu le vois?
Pour survivre. The Reef, aurez-vous le courage de rester en vie?
À l'initiative de Luc, qui convoie des bateaux de plaisance pour le compte de riches propriétaires, quatre amis se retrouvent dans un petit port australien à partir faire une balade en mer sur la grande barrière de corail. Il a tout organisé. Il accueille son ami Matt et sa petite amie Suzy, et surtout Kate, la sœur de Matt, son ancien amour de jeunesse. Tous les quatre s'embarquent sur un petit voilier avec Warren, un loup de mer local à la coule qui semble être physiquement la fusion entre Kevin Bacon et Franck Dubosc. Hélas, pendant le voyage, le bateau heurte un récif de corail et se retourne. Ce qui est d'autant plus grave que, lors d'une première sortie, ils ont esquinté le Zodiac qui leur sert de canot de sauvetage. Isolés des voies maritimes traditionnelles, n'ayant plus de moyens de communication avec la terre ferme, le petit groupe décide de tenter sa chance à la nage pour rejoindre Turtle Island, qui, si les estimations de Luke sont exactes, ne doit pas être à plus de 10 km.
Ok, je vous dis pas qu'on a une chance d'atteindre le continent à la nage. Et pourquoi pas l'île aux tortues ?
Non.
Tu fais quoi ? Je pointe le 12 vers le soleil. Je coupe en deux l'angle avec l'aiguille des heures. Et ça me donne le nord. Bon. On est là, ok ? Et l'île aux tortues est là. On peut pas y aller tout droit parce qu'il y a la barrière de corail. Mais avec le courant dans cette direction, si on nage plein nord, il nous rabattra sur l'île.
À ton avis, il faudra nager combien de kilomètres ?
6. Peut-être 8.
Bon courage.
Mais en chemin, ils s'aperçoivent qu'un grand requin blanc s'est mis à tourner autour d'eux et se rapproche de plus en plus dangereusement. The scariest shark movie since Jaws. Eh ben voilà une tagline qui est bien ambitieuse, mais qui au moins n'est pas aussi stupide que celle du DVD français. Oserez-vous rester en vie ? Ça veut dire quoi ? Avez-vous le courage de mourir ? Tra les gens du marketing. Ce petit film australien s'inspire assez vaguement d'une histoire vraie survenue dans les années 80 et mène sa barque avec efficacité et la volonté de resserrer son propos au maximum sur son sujet. Ni plus, ni moins. Quitte à avoir un petit budget, autant jouer à l'efficacité. Le casting, c'est un total de 6 acteurs, les 5 précités et un vendeur de matériel nautique qu'on croise rapidement dans le prologue. Le tournage est fait au plus près des comédiens qui barbotent dans l'océan. Andrew Traoki, le réalisateur, est un solide cinéaste de série B. Il nous avait déjà offert en 2007 un efficace Blackwater, où 3 vacanciers se retrouvaient coincés dans une mangrove assaillis par un crocodile. En gros, le brouillon de The Reef, et un petit film quand même diablement efficace, qui avait fait son effet en festival et en vidéoclub. C'est d'ailleurs là le principal problème de The Reef. C'est bien fait, c'est efficace, mais en 2010, c'est déjà plus trop original. 7 ans avant le film, Open Waters renouvelait le concept du film de requin en imaginant des nageurs coincés au milieu de l'eau suite à un accident idiot et assaillis par des requins. Le tout en éludant soigneusement le second degré et la gaudriole pour revenir aux fondamentaux de l'angoisse. Traoki reprend le concept et l'épure encore davantage en se concentrant vraiment sur ses personnages, en tenant sa caméra au plus près de leur visage ballotté par les vagues.
Qu'est-ce que c'était ? Où ça ?
Là-bas, j'ai vu quelque chose.
Je vois rien. Arrête, Suzy, tu me fais flipper.
Y a un problème ?
Y a quelque chose par là.
Il faut continuer à avancer.
Y a quelque chose qui nous suit.
Suzy, on est dans un océan. Il y a des millions de créatures qui vivent dedans. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer coûte que coûte. On y va. Il faut y aller, d'accord ? Ça va aller.
Là !
Le requin est souvent assez bien magnifié. C'est une force tranquille qui tourne autour des nageurs. Placide. Et puis soudain, alors qu'on ne l'attend pas, c'est l'attaque. Violente, sanglante. Il y a là une vraie bonne gestion de la menace qui n'est pas grandiloquente. On est sur son territoire, elle peut vous attaquer, elle le fait si elle a faim. Andrew Traoki sait parfaitement doser ses effets pour obtenir un climat lourd, un climat angoissant. Une atmosphère oppressante qui va nous tenir pendant tout le film. Ce qu'il avait finalement déjà fait, non sans talent, sur Blackwater. De même, le film ne dépasse jamais son sujet, qui n'est au final rien de plus qu'un tragique fait divers, se terminant abruptement lorsque la résolution de la menace squalesque arrive, laissant un petit goût amer de tout ça pour ça, quand même. N'empêche, je vais pas bouder mon plaisir pour autant. Ça reste quand même un film qui se situe dans la bonne moyenne, voire dans le haut du panier du genre, même s'il faut plus de 40 minutes avant de voir se profiler un aileron. Les acteurs sont bons, même si leurs personnages, particulièrement le couple Matsuzi, manquent un peu de développement, empêchant de complètement s'attacher à eux. La musique atmosphérique très efficace de Raphaël May, un compositeur australien qui a beaucoup travaillé justement avec Traoki, colle parfaitement au film et rajoute à l'ambiance oppressante.
Oh, c'est de la folie. J'espère que vous savez ce que vous faites.
On l'espère aussi.
Pas de soucis, on y arrivera. On la trouvera, cette île.
Tiens, prends ça.
T'es sûr ?
Allez, garde-la. On va se partager l'autre.
Merci.
Alors, voyons un petit peu les compétences squalographiques de The Reef. Originalité, insuffisamment acquis. Il passe après d'autres films qui ont exploité ce même concept, à commencer par Open Waters. Ça n'en fait pas un mauvais film, mais on a déjà vu ça. Histoire, insuffisamment acquis. Ben voilà, c'est le même problème. Il tient sur son postulat de départ et il le dépasse jamais vraiment. On peut apprécier cette sécheresse et cette économie de moyens. Pour ma part, je reste un peu sur ma faim. D'ailleurs, l'ambiance elle-même est un peu en cours d'acquisition. Alors Traoki sait exactement ce qu'il veut, un film sec, un film qui va à l'essentiel. Mais le problème, c'est qu'il faut une bonne quarantaine de minutes pour vraiment mettre en place l'ensemble, et le requin n'apparaît que dans la deuxième moitié du film, et fait passer celui-ci à une vitesse supérieure. Personnage en cours d'acquisition. Alors les acteurs sont bons, ça y a pas de souci. Pour moi, ça manque un petit peu de caractérisation. Les personnages sont crédibles, mais ça reste un peu des coquilles vides auxquelles on a du mal à s'attacher. Réalisation acquis. C'est filmé au ras de l'eau, plus près des comédiens, caméra à l'épaule. Ça renforce un petit peu le côté pris sur le vif. Et c'est le point fort un petit peu pour moi, c'est que il réussit à rendre ça très viscéral, avec malgré tout un minimum d'effets et un minimum de moyens. Les requins sont acquis. Le requin, devrais-je dire. On le voit peu. Il est filmé en milieu naturel, avec quelques raccords rapides en images de synthèse lors des attaques. C'est vraiment bien pensé. Traoki reprend l'idée de Spielberg dans Les Dents de la Mer, c'est montrer le moins possible le requin. Et quand il le montre, souvent, c'est dans le lointain. Jouant avec les ombres et les lumières, qui fait que, quand il s'éloigne un peu, il s'enfonce dans les ténèbres de la mer, mais on sait qu'il est toujours là. On arrive à un total de 12, j'ai passé plutôt un bon moment, je monterai jusqu'à 1,5 d'appréciation personnelle. Ce qui nous donne un total de 13,5.
Ce qui est bien, mais pas top.
The Reef s'affaire donc être un bel exercice de style, hautement recommandable. Nous avons un bon film. Si vous voulez une petite flip du samedi soir, un peu comme 47 Meters Down déjà traité ici, eh bien, c'est juste parfait. Le souci, c'est que il est vraiment dommage qu'il n'arrive pas à dépasser son sujet pour vraiment apporter quelque chose de neuf au genre. C'est un bon film. Notre nouveau numéro 3, d'ailleurs. Mais il manque le petit supplément d'âme qui en ferait un grand film. Bon, il est temps de tirer les films pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Shark Attack, premier du nom, 1999, Bob Minirowski. Ouais, j'aurais préféré tirer le 3. Hein. C'est pas le meilleur. Ensuite, deuxième film. Ah ben, fallait bien tomber dessus aussi un jour, celui-là. Sharknado. Anthony Seferante, 2013. Eh ben, on va commencer des sagas et pas les meilleurs. Alors, quelques recommandations en vrac. Le podcast Nanarland a repris. Ça y est, nous avons notre premier numéro de la deuxième saison, avec notamment des invités de prestige, puisqu'il s'agit de l'équipe de Super Ciné Battle, un excellent podcast que je vous avais déjà recommandé autour du cinéma. Ils y traitent des films de propagande, et autant vous dire que la semaine prochaine, on va enregistrer les prochains épisodes. Ça va être goûtu. Quelques podcasts musicaux, alors l'excellent Giga Musique, qui nous propose le pire du pire de ce que la variété française a fait depuis les années 90. Avec par exemple un épisode assez savoureux sur le dernier album de Frankie Vincent et Evangeli, ou encore un spécial AB Productions avec, je le recommande particulièrement, les chansons de Christophe Ripper qui sont du vol qualifié. Sinon, comme vous le savez, j'aime beaucoup les musiques de films. Et je vais vous conseiller deux podcasts peu connus. Alors tout d'abord un site complet. lagrandeévasion.fr qui propose à la fois une radio continue avec des musiques de films, plein de podcasts thématiques vraiment bien pointus, et même une partie magazine avec des interviews, des critiques de sorties en bande originale. Vraiment très bien. Sinon, je vous conseille aussi l'original de la bande, un tout nouveau podcast d'Alexis Yomet qui s'intéresse plus particulièrement à des musiques de films rares ou bien des films qui ont plutôt mauvaise réputation. C'est ainsi, par exemple, qu'il a fait un premier numéro sur la bande originale refusée d'Alex North pour 2001 Odyssée de l'espace, puis un second sur la bande originale de 2010, un film un peu mésestimé. Et nous promet, et ça je l'attends avec impatience, un épisode sur le film Vidocq de Pitoff. Un podcast intéressant à soutenir parce que ça permet de réévaluer parfois des musiques de films qui valent mieux que le film lui-même. Je vous mets bien entendu tout ça en lien dans l'accompagnement du podcast. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour le dernier épisode de l'année. mais je vous rassure, ça va continuer en 2019. D'ailleurs, si vous voulez soutenir un peu le podcast, je ne l'ai pas demandé jusqu'à présent, mais n'hésitez pas, un commentaire 5 étoiles sur iTunes, ça aide au référencement, un petit peu de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Faites connaître le podcast, faites-le vivre. Les requins vous aiment et vous remercient par avance, et promettent de ne pas vous croquer aux vacances prochaines. En attendant, nous nous disons à dans 15 jours, vous pouvez retourner vous baigner.